7h49, à Boulevard 102-1 Mathias Turcotte, Jacinthe Varel, Max Larouche avec vous jusqu'à 10h et se joint à la discussion le toujours très apprécié et pertinent Farnel Moxey. Comment ça va?
Ça va très bien. Merci de m'inviter. Toi, comment ça va?
Ça va très bien. Ça ouais. va très bien. Toujours content de te parler. Puis un moment que j'apprécie toujours... C'est quand on jase, puis là, c'est le moment de choisir le sujet duquel on va parler. Là, pour amener les gens dans les coulisses, Farnel m'envoie sa proposition, puis je fais comme, OK, c'est-tu d'actualité? Non, pas nécessairement. C'est pas brûlant d'actualité, mais en train de m'impliquer dans un dossier avec une équipe de créateurs de contenu sur les réseaux sociaux pour déposer un mémoire à l'Assemblée nationale là-dessus. Puis c'est un dossier qui va faire jaser dans les prochains mois.
Tout le monde a besoin d'un passe-temps. Hein?
Ben, exactement. toi, t'as l'air d'en avoir beaucoup. Je sais pas si t'as assez de 24 heures dans une journée. Là, tu fais beaucoup de choses. Mais dans tous les cas, ton sujet, finalement, me dit, hey, pour vrai, c'est intéressant. Puis il y a plusieurs aspects à aborder, plusieurs facettes à ce sujet-là. C'est le projet de loi 108 sur le financement public des créateurs numériques qui est en train de qui a commencé à se préparer, qui va continuer à se faire là, dans les prochaines semaines avec le ministre Mathieu Lacombe. Là, savoir si c'est lui qui va rester à la culture.
C'est la grande question.
C'est un questionnement. Moi, je trouve que c'est un des ministres qui fait un beau travail là, à la culture.
Je suis généralement très critique de la CAQ, mais lui, à la culture, j'ai pas trop de problèmes.
C'en est un qui maîtrise vraiment ses dossiers, tout ça. Je pense que la première question qu'on a à se poser, si on parle de financement public de créateurs numériques, c'est de se pencher sur la définition d'un créateur numérique. Tu sais, toi qui publie du contenu d'actualité sur les réseaux sociaux, c'est ça un créateur numérique? Ça va-tu plus loin? C'est-tu plus large?
C'est pas clair présentement, puis c'est une des choses qu'on veut clarifier. Tu parlais du mémoire sur lequel moi et un groupe de collègues, on travaille. On veut clarifier ça parce que dans le projet de loi 108 présentement, essentiellement, là, le projet de loi 108 prévoit que on va donner au mandat de la SODEC aussi d'appuyer, dont avec des appuis financiers, on parle de subventions, la création numérique. Puis qu'est-ce que c'est la créativité, la création numérique? Le terme dans le projet de loi, c'est la créativité numérique. C'est pas défini dans le projet de loi.
T'sais, ça peut être même... Moi, tu me dis création numérique... On peut-tu entrer des jeux vidéo là-dedans? C'est des
oui,
créateurs de jeux vidéo.
C'est ça. Alors, c'est parce que, justement, c'est pas défini. La SODEC a généralement pas historiquement eu le mandat d'appuyer les jeux vidéo, par exemple. La SODEC, typiquement, ça a été plutôt des appuis à la création télévisuelle, au film, un peu la musique aussi, quelques événements. Mais généralement, ça, c'est dans ce monde-là. Alors, on pourrait penser un peu naturellement que la créativité numérique, c'est quoi? C'est des méga-productions qui vont aller sur Netflix puis sur Crave au lieu d'aller sur TVA, mettons. Mais, je pense que le terme est assez large. Est-ce que ça inclut des gens comme Émilie Lalune, qui est une influenceuse, créatrice de contenu, qui fait des sketchs humoristiques essentiellement, ouais. qui a quand même plus que 2 millions d'abonnés au Québec. Là. Est-ce que ça inclut les jeux vidéo? Est-ce que ça inclut les nouvelles formes de musique, par exemple? On ne sait pas, c'est pas entièrement clair. Alors, ce serait de clarifier ça parce que les enjeux sont quand même importants. Là, si on commence à parler de subventions à la création culturelle, il va falloir qu'on en parle, puis c'est toujours une question sensible.
Puis tu sais, juste, mettons qu'on se concentre sur les créateurs de contenu, t'as mentionné c'est Émilie Lalune, mettons qu'on se concentre sur les créateurs de contenu TikTok. Je comprends pas où on va mettre la ligne. Tu sais, je comprends pas où on va pouvoir dire tel créateur de contenu, son contenu mérite d'être financé par l'argent du public, puis tel autre qui fait sensiblement la même affaire sur la même plateforme, lui, non.
Ouais.
Ça va être... C'est de s'embarquer
dans quelque chose. C'est sensible. Puis le projet de loi donne essentiellement toute la latitude à la SODEC de décider plus ou moins comment le faire avec des règlements qui peuvent être déterminés par le ministre assez rapidement. Alors, c'est large. Mais si on regarde ce qui se passe ailleurs, par exemple, en France. La France fait des subventions directement aux créateurs YouTube, Instagram, TikTok depuis assez longtemps maintenant. Okay. Et eux, la façon qu'ils font, ils ont un espèce de double standard. Ils ont un standard qui a des limites quantitatives, alors des chiffres. Il faut que tu aies un certain nombre d'abonnés. En France, c'est 50 000 abonnés sur une de tes plateformes pour être éligible, même avant considération. Et après que tu aies ce seuil-là numérique de 50 000 abonnés, là, il y a un comité qui va décider qu'est-ce que tu as besoin. En fonction, il faut que tu soumettes un budget. Il faut que la demande de subvention représente tout au plus la moitié de ton budget total. Il y a des comptes à rendre. Alors, il y a un encadrement. Est-ce que c'est ça la direction que le gouvernement du Québec va prendre? Je ne serais pas surpris qu'on s'en inspire, là, mais on verra.
Ça me semble logique à la base d'éliminer beaucoup de monde, ouais, avec à la base le couperet là, qui tombe à 50 000. En bas de ça, on jase même pas.
Ouais, 50 000, c'est un seuil assez élevé au Québec, vu qu'on a une population beaucoup plus petite, là, mais un seuil quelconque qui est assez élevé pour faire en sorte que justement, tu peux pas avoir quelqu'un qui décide de ramasser son téléphone demain matin, se déclarer créateur numérique, puis aller chercher des montants d'argent public. Mais il faut qu'il y ait des limites.
En même temps, ce que ça fait, c'est que tu vas financer ceux qui le font déjà, mais tu vas pas en participer à la création de nouveaux créateurs numériques.
Ouais, et c'est un enjeu. C'est vrai que c'est un système où pour gagner, il faut que tu aies déjà gagné. Puis ça, il y a de la critique légitime là-dessus. C'est pour ça que le seuil, il ne faut pas qu'il soit trop élevé non plus. Je disais que 50 000 au Québec, c'est peut-être un peu élevé. Mais en mettant un seuil d'engagement qui existe déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure en France que les gens qui vont chercher de l'argent du public, c'est des gens qui ont déjà prouvé que le public est intéressé par ce qu'ils font.
Ouais.
Alors, tu sais, c'est un seuil en France comme 50 000, c'est pas inatteignable pour quelqu'un qui le fait relativement sérieusement pendant quelques mois, peut-être un an. Mais, je veux dire, quelqu'un qui décide de juste prendre des photos de son chat à tous les jours, il va jamais se rendre, là. Alors, c'est toujours dans la question, il faut très bien connaître le marché, très bien connaître la réalité, puis ça, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Alors, il va falloir que la SODEC s'équipe d'experts là-dessus.
418-971-1021, êtes-vous pour ou contre le financement public des créateurs numériques? Jacinthe Varel, je sais qu'en général, les subventions, c'est pas quelque chose que t'appuies nécessairement. J'imagine que t'es un peu là-dedans aussi avec ça.
Ah non, je trouve ça vraiment déplorable que la Coalition Avenir Québec prenne ce virage-là. On va le faire sous le couvert de la protection de notre langue, de notre culture. On va se donner plein de bonnes vertus morales derrière ça, mais il reste que la France, Farnell fait bien de présenter la France. La France, ça fait partie des éléments qui sont remis en question en ce moment parce que sur le plan de la gestion des finances publiques en France, on a un grave problème. On a des graves problèmes et notamment, justement, cette aide aux intermittents du spectacle est remise en cause énormément par plusieurs partis politiques qui disent « ça n'a plus de bon sens, 50 000 abonnés en France, c'est rien. C'est un seuil vraiment très bas pour la France. » Alors, est-ce que là, vous allez me dire, ben, faut peut-être juste remonter le seuil puis être proportionnel à la population là-bas. Mais encore, la France a du mal à vivre la même chose que nous avec la crise des services publics. Probablement une crise encore plus importante, plus aiguë que la nôtre. Une crise de déficit, de dette, de services publics aussi. Alors, c'est sûr que d'avoir des filets sociaux aussi importants que la France, notamment en matière culturel, ça pose un gros problème quand je me dis qu'à partir d'ici, on regarde ça puis on se dit « Ah, faudrait s'inspirer de ce modèle-là. Attendez, regardez le modèle français. Il s'inscrit dans une grave crise, là. une grave crise économique en France. Alors, d'adopter les mêmes trajectoires quand on n'a pas travaillé ici sur la création de richesses. Parce que je dis pas, si on avait les moyens de se payer ça, c'est une autre chose aussi. Mais en ce moment, on travaille plus fort sur dépenser l'argent de l'État, dépenser l'argent des contribuables que générer de la richesse. Et à un moment donné, ben on crée aussi un déséquilibre. Alors, j'ai l'impression qu'on suit la France dans ce grand déséquilibre où on ne crée plus de richesse, on laisse partir nos sièges sociaux, on se désindustrialise énormément, on se laisse prendre dans le jeu de la mondialisation, mais en même temps, on continue de dépenser en s'assurant des filets sociaux comme si on en avait les moyens.
Ben, tu sais, si on parle de financement et d'usage efficace de l'argent public, je pense que les médias sociaux sont très prometteurs. Je reviens à une créatrice comme Émilie Lalune, il y en a d'autres, qui, je veux dire, littéralement, semaine après semaine, se font voir par des centaines de milliers de Québécois. C'est des chiffres comparables au téléjournal, c'est des chiffres comparables au bye-bye, des fois, pour des sketchs, pour de la musique, pour de la danse. Qui en tout et partout, là, la production a peut-être coûté 50$ à faire pour des produits qui vont être vus par littéralement des centaines de milliers de Québécois en culture québécoise. combien ça coûte faire quelque chose de comparable si on le fait en subvention, en traditionnel? T'sais, si on parle de vouloir faire la promotion de la langue, je pense qu'on est tous d'accord qu'on dit on veut faire la promotion du français, on veut faire la promotion de la culture québécoise. Je t'entends puis je suis d'accord avec toi qu'il faut se questionner à savoir comment on peut le faire d'une façon la plus efficace possible financièrement. Mais la réalité, c'est que les médias sociaux font des chiffres comparables en termes de portée et de transmission de culture que le font l'industrie du film et du cinéma pour une fraction d'un pour cent du budget total. Alors, selon moi, c'est un argumentaire de plus pour aller dans cette direction-là, pour voir comment est-ce qu'on peut bonifier cette offre-là qui est prouvée être beaucoup plus efficace à la pièce que la musique traditionnelle, que la télévision plus le film.
T'as raison que c'est le modèle le plus économique par rapport aux médias traditionnels, par rapport à la télévision. Produire du contenu sur les réseaux sociaux,
ça coûte rien
à côté de ce que ça coûte sur les plateaux de tournage, les films, les téléséries, tout ça. T'as tout à fait raison, mais c'est un modèle qui est déjà rentable. Il y a déjà du monde qui gagne très bien leur vie sans aide gouvernementale sur les réseaux sociaux, justement parce que ça coûte tellement pas cher à produire et si tu produis du bon contenu, ben t'es capable d'en vivre. Il y a plein de monde ici au Québec qui sont capables de vivre des réseaux sociaux. Je pense par exemple à Benjamin Tremblay qui fait le podcast 7 jours sur Terre.
Qui est excellent d'ailleurs et qui est à Québec.
Il vit de ça, il vit très bien de ça et il n'a pas eu besoin d'aide du gouvernement. Quand tu produis de l'excellent contenu, tu peux gagner ta vie avec ça. Alors, pourquoi créer artificiellement ou aider artificiellement des gens qui créent du contenu moyen, du contenu médiocre? Parce que c'est ça que ça fait. Ça crée l'encouragement à créer du contenu bien moyen, bien ordinaire. On le voit avec la télévision. On le voit avec la télévision. Pourquoi la télévision est en crise? Ça coûte une fortune, mais c'est aussi qu'il y a il n'y a plus d'auditeurs, il n'y a plus de téléspectateurs. Pourquoi il n'y a plus de téléspectateurs? Parce que le produit, il est moyen.
tu parles de produits médiocres, je suis d'accord qu'il y a bien des gens qui vont sûrement utiliser ça pour limiter leur effort à aller chercher du financement autre. T'sais, Benjamin Tremblay, il est un peu l'exception, en grande partie, parce que je veux dire, l'énorme majorité de son auditoire est en France. Si on veut faire du contenu québécois pour les Québécois, le modèle de Benjamin Tremblay ne fonctionne pas vraiment. Il faut aussi reconnaître la réalité que la culture peut s'auto-financer. C'est un phénomène relativement nouveau, relativement rare et relativement exceptionnel qui existe à peu près seulement aux États-Unis à grande échelle. À travers le reste du monde, à travers le reste de l'histoire, la subvention de l'art a été la norme. Je veux dire, la chapelle Sistine n'a pas été peinte grâce à des gens qui finançaient ça de façon privée. C'était financé par le gouvernement. Shakespeare écrivait grâce à des subventions publiques. Les grandes œuvres à travers l'histoire qui existent encore aujourd'hui, qui forment la base de la culture humaine, si on veut, ont presque tous été le résultat de subventions publiques. Puis c'est sûr que tu peux pas savoir d'avance si une œuvre va être un chef-d'œuvre qui va passer à l'histoire ou médiocre. Alors, tu es un peu obligé de financer tout puis espérer que tu fais les meilleurs choix possibles, je pense.
On a un texto intéressant, 88-971-101, si vous voulez réagir pour ou contre le financement public des créateurs numériques. Isabelle qui dit « Je comprends pas pourquoi on devrait subventionner ça. Si tu as du talent, tu devrais réussir. On finance pas publiquement les futurs joueurs de hockey. Les joueurs de tennis, ils gagnent...
» On subventionne les futurs joueurs de hockey. Ça, c'est pas vrai. Là. Je veux dire, on a des énormes programmes d'encouragement au sport, à la jeunesse, ça commence là. Je suis en désaccord respectueux avec ça.
Je m'excuse, là, mais... Ben non.
Ben non, mais tu veux dire que c'est qui paye les arènes? C'est les villes? C'est le gouvernement? Je veux dire, tout ça vient d'argent public à la base.
Oui, mais c'est les familles qui paient pendant des années aussi, pour équiper leurs jeunes. Non, non, mais aussi.
Mais
non,
dire, d'abord faut pas nier qu'il y a une partie importante du gouvernement à l'argent.
Arrête, d'abord et avant tout, il y a des familles qui équipent leurs petits à 4 ans, pas 5 ans, avec des patins, puis avec de l'équipement, puis avec des cours, puis avec des bâtons, puis ça grandit.
Mais c'est pas les familles qui payent l'arène, puis la glace. Là. Ça,
ben
c'est le gouvernement.
Oui, via les taxes.
Exactement, via les taxes. On est d'accord pour dire que ça passe par le gouvernement. C'est des subventions publiques. Qui n'ai pas d'enfants, je suis quand même content de payer des taxes pour que les enfants des autres puissent jouer au hockey.
Ça passe par notre argent à nous, les familles qui payons pour les jeunes qui puissent se développer dans les arénas, absolument. Mais les services publics des villes, les services publics, parce que là, on parle de patinoire, c'est municipal, ça fait partie de nos services publics en taxes municipales.
Ben oui, on est d'accord, c'est des subventions. Je veux dire, c'est de l'argent qui vient du public, qui va au gouvernement, qui est ensuite redistribué à des infrastructures qui permettent le développement.
Alors, mais quelqu'un qui veut se lancer en maçonnerie puis qui voudrait s'équiper en maçonnerie, on va lui donner des subventions.
Les cégeps sont largement subventionnés aussi. Là, je veux dire, l'éducation est payée par le gouvernement.
On parle de subventionner le lancement de carrière. Il n'y a pas de modèle comme ça ailleurs dans d'autres professions, subventionner le lancement d'une carrière.
Ben c'est quoi le lancement d'une carrière? Est-ce que c'est décider d'aller travailler? La carrière du jeune hockeyeur, elle a commencé quand? Là?
Mais il faut que je donne le point à Jacinthe. Je suis d'accord qu'il y a quand même une différence parce que la patinoire, c'est un service qui va être direct à la population. Tu vas avoir des familles qui vont aller faire du patinage libre. Les enfants de la population qui payent pour la patinoire, c'est leurs enfants qui vont jouer sur la patinoire. L'argent qui va aux créateurs de contenu, oui, il y a une répercussion de contenu à la population, mais c'est pas un service direct offert à la population. Je pense que c'est là qu'il y a quand même une différence entre les deux.
On peut dire la même chose, par contre, pour les films. On peut dire la même chose pour les médias.
C'est ça. C'est qu'à quelque part, si la discussion, c'est savoir est-ce qu'on subventionne la culture en général, ça, c'est une discussion très différente de savoir est-ce qu'on subventionne spécifiquement les créateurs numériques.
Absolument, c'est sûr.
Si on est contre les subventions à la culture en général, il va falloir se poser la question... Est-ce qu'on veut revenir à une réalité où on n'a pas, par exemple, on ne va pas avoir se payer pour la prochaine Chapelle Sistine? Qu'est-ce qu'on va laisser comme legs aux générations futures? Il faut voir, faut aller plus loin que juste son immédiat et son compte de taxes la semaine prochaine.
Des gars qui livrent des chèvres à la porte de quelqu'un pour faire des pranks puis qui gagnent sa vie sur YouTube comme ça, moi, je comprends pas ça. Je m'excuse, mais je comprends pas
d'avance.
Ça à la Chapelle Sixtine. Non, il n'y a personne qui travaille à construire une Chapelle Sixtine au Québec. Il n'y en a pas.
Je suis pas d'accord. Il y a des gens qui font des choses vraiment exceptionnelles et qui font de l'art dramatique, qui font de l'humour très pincé, qui ne gagnent aucunement leur vie à faire ça. La grande majorité des créateurs ne sont pas capables de gagner leur vie présentement à le faire. Il y en a quelques-uns qui percent et qui, généralement, sont beaucoup plus business savvy qu'ils le sont des créateurs culturels. Alors, à permettre à ces gens-là de faire de la création culturelle au lieu de passer la majorité de leur temps à essayer de faire de la business, ça créerait plus de culture qui créerait probablement, oui, plus de scrap, mais aussi plus de choses exceptionnelles.
Mais je dois te concéder le point que c'est vrai qu'en ce moment, il y a un déséquilibre quand même entre les créateurs dans l'industrie de la télévision, par exemple, et dans les réseaux sociaux. Dans l'industrie du jeu vidéo aussi, le jeu vidéo est extrêmement subventionné au Québec. Ça en est un problème aussi. C'est pas pour rien que les Français, les grosses boîtes françaises de jeux vidéo débarquent ici au Québec parce qu'elles ont terminé de siphonner ou elles continuent de siphonner les fonds publics en France et elles viennent siphonner nos fonds publics ici. Mais il y a vraiment du ménage à faire et là, j'ai l'impression que on veut juste élargir l'accès à ce siphonnage de fonds publics. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre entre ceux qui ont le droit de siphonner et ceux qui n'ont pas le droit.
Ouais, l'industrie du jeu vidéo, je ne sais pas si ça cadre tout à fait là-dedans. Généralement, non. Mais encore une fois, il va falloir voir ce que ça veut dire créativité numérique dans le projet de loi, en effet.
Ouais.
Est-ce que sur... mettons qu'on parle de ton cas personnel, parce que j'imagine que tu serais éligible d'une certaine façon à un programme de financement public de créateurs numériques, là, quels que soient les critères, j'imagine que tu es assez suivi sur tes plateformes puis que tu as bâti une assez belle crédibilité.
En France, je serais éligible. Oui.
Exact. Fait qu'au Québec, d'après moi, il n'y aura pas trop de problèmes. Est-ce que tu vas vouloir en profiter de cette subvention-là?
Le but des débats, c'est pas de parler de moi, mais moi, particulièrement, j'ai fait le choix de ne pas monétiser cet aspect-là de ma vie parce que c'est pas mon métier. Je veux pas que ce soit ma job. Alors moi, je reçois pas d'argent de TikTok, quoi que ce soit. Et si un programme du genre venait à exister, je pense pas que j'en demanderais parce que j'en ai pas de besoin. Une des choses dans notre mémoire, c'est qu'on essaie de prévoir que les montants ne soient pas tellement élevés que ça vienne à attirer des producteurs professionnels. On veut que ce soit des appuis à des artisans, des gens qui, généralement, vont être obligés de continuer à avoir un autre job, vont aussi être obligés de continuer à aller chercher de l'argent public. On ne veut pas que ce soit une subvention à 100% de leur production. Et on est très conscient aussi du risque que si les montants deviennent trop gros, trop intéressants, c'est les grands producteurs qui vont soudainement s'ouvrir un compte Instagram, un compte TikTok, dire « je suis un créateur numérique de médias sociaux » pour pouvoir aller siphonner cet argent-là, justement. Alors, tout se fait dans une question de comment bien le faire pour optimiser, maximiser le résultat par dollar qu'on met dans ces subventions-là.
Sens-tu que l'adoption du projet de loi, ça va relativement bien aller ou, tu sais, là, on voit juste par texto, il y a une forte résistance, là, beaucoup plus de contre que de pour. Tu sens que ça va être tough pour le gouvernement de faire passer ça?
Je sens surtout que ça va être une question de comment c'est présenté au public. T'sais, je comprends que c'est présenté en disant on va payer des influenceurs pour amener des chèvres à des portes. Évidemment que ça ne passera pas, mais c'est que je pense qu'il y a une grosse déconnexion entre les gens qui sont à l'intérieur de cette réalité culturelle-là, qui est, disons-le, de plus en plus la majorité des Québécois. Là. Je veux dire, la création numérique, c'est maintenant... Les médias sociaux, par exemple, c'est un des vecteurs principaux de transmission de la culture québécoise aujourd'hui. C'est plus une affaire de juste des jeunes. Là. Je veux dire, la plupart des gens ont plus le câble, mais ont un téléphone dans leur poche. Il va falloir présenter ça pour... Enfin, en faire une présentation honnête, que oui, il y a des gens qui font des niaiseries, mais t'as aussi des gens qui font un travail exceptionnel, qui dépasse souvent ce qui se fait dans les médias télévisés, dans les médias radio dans certains cas, et que ben, ces gens-là méritent leur place à l'intérieur de tout ce qui est appui public, je pense.
Le projet de loi prévoit là, l'ajout de 200 millions de dollars. Donc, la SODEC, en ce moment, elle a un budget de 19,5 millions de dollars. On prévoit ajouter 200 millions de dollars pour en faire... Donc, dans la première année, là, on commence avec 219,5 millions de dollars au lieu de 19,5.
C'est... Ça, c'est pas tout de l'argent qui va aller à la créativité numérique. Ça, le projet de loi prévoit que ça aille plus largement à la création culturelle en général, mais oui.
Mais absolument. Et donc, on dépense encore plus dans un contexte où on s'empêche de construire des hôpitaux. On se rappelle qu'il y a des hôpitaux, des projets qui ont été mis sur la glace, des écoles. Fait que... Il y a des excellents contenus qui réussissent, il y a des gens qui réussissent à bien gagner leur vie dans le contenu, mais il y a aussi, là, c'est pas une... Je prendrai pas un exemple québécois, mais tu sais, des filles qui vendent leur eau de bain et qui réussissent à avoir énormément d'abonnés en vendant de l'eau de leur bain.
Ben, tu sais, quand on parle de comment on va présenter ça au public, c'est pas des filles qui vendent leur eau de bain qui vont recevoir ces subventions-là.
Il va y avoir des critères. Et à un moment donné, dans ces critères-là, on va avoir des catégories où on veut encourager les communautés LGBTQ+. On va vouloir avoir des catégories pour les communautés autochtones. On va avoir des catégories pour les femmes, pour encourager les femmes. Moi, je suis féministe, là. Puis je veux pas avoir de catégories pour encourager les femmes. Je crois à l'égalité homme-femme, puis je pense que les femmes sont capables de faire leur place avec de l'excellent contenu sans avoir une catégorie spécifique à eux. On ouvre la porte à plusieurs glissements où les critères sont établis par qui, sous quelle base, dans quelle vague populaire, dans quel mouvement. J'imagine que les mémoires qui vont être déposées, comme le tien, vont tenir compte de ça aussi dans les avis qu'on va donner au gouvernement.
Oh, sûrement, puis il va sûrement avoir plusieurs mémoires différentes. Si je peux vous dire, le nôtre, on ne vise pas à prévoir des catégories différentes dans le genre LGBTQ+, ou féministe. Ça, ça va être à voir avec... le gouvernement en temps et lieu. Présentement, dans le projet de loi, c'est pas prévu ce genre de choses-là. Ça veut pas dire que ça se fera pas, mais c'est plus spéculatif. Puis généralement, quand on dépose un mémoire ou au niveau de l'étape législative, on va parler de ce qui est possible, mais on va surtout parler de ce qui est définitivement dans le projet de loi.
Non, ça, c'est sûr que ces critères-là sont pas dans la loi. C'est justement, c'est la SODEC, après ça, qui va gérer, qui va administrer l'argent, la distribution de ces fonds-là. Mais ça laisse quand même, je trouve que c'est important qu'on on prenne la mesure que la SODEC va établir elle-même certains critères parce que ça va être sa prérogative. C'est elle qui va administrer les fonds.
Oui, oui, en effet. Mais ça, je veux dire, ça, c'est une critique envers les subventions à la culture en général,
ouais,
dans toutes ses formes.
Aussi.
Et je dirais, peu importe c'est quoi la critique, et je comprends les critiques de subventions de la culture, c'est vrai que ça coûte très cher, puis des fois, on se demande, ben, c'est quoi le résultat. Mais là-dessus, je dirais, selon moi, c'est juste un argumentaire de plus de vouloir subventionner la créativité numérique, surtout à petite échelle, à l'échelle artisane, parce que c'est là où on a le plus d'impact au dollar. Je peux comprendre qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas super confortables à donner 2-3 millions de dollars à la création d'un film qui porte sur une question culturelle qui touche une très petite fraction des Québécois. Mais si pour 5 000 $ on peut avoir un impact comparable en termes de portée, je ne parle pas en termes de production de tout ça, mais en termes de portée d'un message, ben c'est pas mal plus facile à avaler pour le public, je pense.
Fernel Morisset, merci beaucoup. Toujours le fun, toujours intéressant.
Ben, merci beaucoup. Merci de m'inviter.
Dans les prochaines minutes, on jase économie, mais surtout des impacts économiques du conflit actuel entre Air Canada et ses agents de bord avec Miguel Ouellette, qui est économiste et directeur chez Mallette. 8h14, vous écoutez Boulevard 102. Boulevard Against the